Il est 9h à Paris, 8h en temps universel. Merci d'être avec nous. Bonjour, bienvenue. RFI vous donne la parole dans 10 minutes, vos questions sur l'actualité et dans 40 minutes, vos réactions. L'ancien président Macky Sall sera-t-il jugé au Sénégal pour sa gestion des finances publiques? Mais d'abord le journal international. Bonjour Martin Guez.
Bonjour Juan Gomez. Et à tout de suite à la une ce matin, ces échanges directs entre le Hamas et les États-Unis au moment de rencontres confirmées à Doha, au Qatar, Washington et Donald Trump qui mettent par ailleurs la pression sur le mouvement islamiste palestinien pour qu'il libère les otages israéliens. Bruxelles, sommet de crise du Conseil européen. En présence de Volodymyr Zelensky, l'Europe qui veut muscler sa défense, Emmanuel Macron propose lui un débat sur la dissuasion nucléaire sous parapluie français. En Guinée, grand oral pour le Premier ministre. Amadou Ouriba devant la presse hier à Conakry. Enfin, nouvelle journée d'audience à la commission d'enquête à Londres sur ce naufrage de migrants en 2021. Un garde-côte anglais a pris la parole alors que ni la France ni l'Angleterre n'ont réagi aux appels à la rescousse des naufragés. Contact établi entre les États-Unis et le Hamas, des échanges confirmés par la Maison-Blanche. Alors que le mouvement islamiste palestinien est qualifié d'organisation terroriste par Washington, l'envoyé spécial américain pour les otages israéliens, Adam Waller, qui a autorité pour parler à n'importe qui, fait savoir la porte-parole de la Maison-Blanche. Le Hamas qui confirme deux rencontres qui ont eu lieu à Doha, au Qatar. Le Hamas sur qui Donald Trump met la pression. Si vous gardez des otages, vous êtes mort, a notamment lancé le président américain. RFI Washington, Guillaume Nodin.
Shalom Hamas, cela signifie bonjour et au revoir. C'est ainsi que débute le message de Donald Trump sur son réseau social personnel. C'est pour immédiatement exiger le retour des otages et des corps de ceux qui ont été assassinés par l'organisation islamiste palestinienne. C'est votre dernier avertissement, lance le président américain au chef de l'organisation, et votre dernière chance de quitter la bande de Gaza. Il signale aussi qu'il a fourni à Israël tout le nécessaire pour finir le boulot, dit-il, et que le prix à payer pour la population sera très lourd si les derniers otages ne sont pas relâchés. C'est qu'avec Donald Trump, menacer, c'est dialoguer, et le dialogue direct avec le Hamas est bel et bien ouvert. C'est inédit avec une organisation considérée comme terroriste à Washington, et c'est officiellement confirmé par la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt.
L'envoyé spécial est engagé dans ces négociations et a toute autorité pour parler à qui que ce soit. Israël a été consulté sur cette question, a dialogué, parlé à des gens à travers le monde pour faire ce qui est dans l'intérêt du peuple américain. Le président a prouvé qu'il croit que ce sont des efforts de bonne foi pour faire ce qui est bien pour le peuple américain.
Le Hamas est manifestement sur la même ligne. L'un de ses responsables confirme à l'agence France Presse que deux contacts directs au moins ont eu lieu avec les États-Unis ces derniers jours à Doha. Au Qatar. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Autre message vidéo, autre chef d'État, le président français Emmanuel Macron a pris la parole hier soir, un petit quart d'heure, pour s'adresser directement à ses concitoyens et préparer le terrain à des efforts pour des investissements supplémentaires et pour faire face à la menace russe qui touche tous les pays d'Europe, a souligné le président français, alors que se tient ce jeudi un Conseil européen extraordinaire à Bruxelles. Il sera question de l'Ukraine et de la défense européenne. Rester spectateur serait une folie, a estimé Emmanuel Macron, une allocution sur un ton grave. L'Europe est à un moment de bascule et doit réagir, estime Ulrich Buna, chercheur associé chez Open Diplomatie.
L'Europe a sans doute plus d'un train de retard, hein. Ça fait plusieurs années qu'il aurait fallu prendre conscience de ces choses-là. Le premier virage aurait dû être pris lorsque Barack Obama avait parlé de son pivot vers l'Asie, donc on parle d'un train qui est parti il y a plus d'une dizaine d'années. Néanmoins, effectivement, ces derniers mois, il faut reconnaître, et encore plus depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, il y a quand même une prise de conscience côté européen qu'il faut faire beaucoup plus vite, et qui, alors certes, on agit du coup énormément dans l'urgence, et il y a un risque effectivement que certaines des choses qu'on aurait dû faire ne pourront pas être faites dans les temps. On ne va pas pouvoir remonter une industrie de défense comme ça en claquant des doigts et en 3 mois, quand bien même on mettrait beaucoup d'argent derrière. Finalement, les questions, ce n'est pas simplement de l'argent, c'est aussi des questions de changement de pensée stratégique, c'est une question aussi de volonté industrielle. Donc voilà, donc ça, c'est des choses qui vont prendre du temps, mais néanmoins, le mécanisme est enclenché. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est qu'au-delà de ces grandes annonces, Ursula von der Leyen a parlé de 800 milliards, mais ce qu'il va falloir, c'est véritablement maintenant annoncer des projets, pas juste des milliards. Il va falloir très concrètement annoncer des projets concrets sur des capacités militaires que les Européens seraient capables de créer d'ici quelques années.
Des propos recueillis par Romain Lemaresquier, un sommet des 27 à Bruxelles, auquel participera également Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Alors que sur le terrain, des nouvelles frappes russes ont frappé en Ukraine et ont fait un mort à Soumy et au moins 3 autres à Kryvyi Rih, ainsi que 29 blessés dans le centre du pays. Selon un nouveau bilan des autorités locales, Kryvyi Rih, ville natale de Volodymyr Zelensky, située à environ 80 km de la ligne de front.
Conakry, 89.9 FM.
RFI 8h05 à Conakry. Grand oral hier pour le Premier ministre guinéen Amadou Ouriba devant la presse. Lui qui est chef du gouvernement depuis un peu plus d'un an et qui a notamment annoncé que le référendum et les prochaines élections présidentielles comme législatives se tiendront bien en 2025 pour un retour à l'ordre constitutionnel dans le pays. La transition devait s'achever le 31 décembre 2024, mais le calendrier a été chamboulé plus de 3 ans après le coup d'état du général Mamadi Doumbouya. À Conakry, correspondance de Mokhtarba.
En annonçant le retour à l'ordre constitutionnel, le chef du gouvernement n'a pas tremblé. Amadou Ouriba.
Ce qu'il faut retenir en 2025, le retour à l'ordre constitutionnel sera effectif. Le référendum, les élections présidentielles, législatives.
Il énumère qu'il y a encore un chapelet de difficultés qu'il faudra surmonter.
Le timing est en train d'être étudié parce que la principale difficulté que nous devons surmonter, c'est la constitution du fichier électoral. Le fichier électoral peut être source de déstabilisation dans certains pays.
En répondant aux nombreuses interrogations de la presse, il était aussi question des enlèvements et disparitions forcées des voix critiques contre les autorités, selon lui accusées à tort.
Je dois dire que tout ce qui s'est passé depuis juillet 2024, avec la disparition de Fonike Mangue et de Bilo, c'est quelque chose qui n'a pas été dans un droit fil des intérêts du gouvernement. Nous avons une expérience de tout ce qui s'est passé durant ces dernières années pour faire imputer aux autorités des situations qui sont instrumentalisées par ailleurs.
Le chef de l'État, dans son adresse à la Nation fin 2024, avait dit que 2025 serait une année électorale cruciale, sans toutefois donner de calendrier. Mokhtarba Conakry, RFI.
L'actualité en Asie, c'est cette incroyable bévue en Corée du Sud. L'armée de l'air sud-coréenne qui affirme qu'un de ses avions de chasse a largué par erreur 8 bombes qui ont explosé au mauvais endroit lors d'un exercice militaire. Explosions qui ont blessé plusieurs civils, un incident malheureux que l'armée dit profondément regretter. Et puis la Chine, qui se dit confiante pour atteindre son objectif de croissance fixé à 5% pour 2025. La Chine, par ailleurs, premier producteur mondial d'acier, avec plus d'1 milliard de tonnes produites en 2024, qui a décidé de réduire sa production. Le pays veut remédier à ses surcapacités dans le secteur et tente d'enrayer la chute de ses bénéfices. Allez, on termine ce journal à Londres, où l'on suit cette commission d'enquête chargée de faire la lumière sur ce terrible drame en mer de la Manche. Au moins 27 migrants morts en tentant de rejoindre l'Angleterre. C'était dans la nuit du 23 au 24 novembre 2021, à bord d'une embarcation de fortune, et ce malgré de nombreux appels aux secouristes français et anglais qui n'ont pas bougé. Hier, c'est un garde-côte britannique, Neil Gibson, qui était appelé à témoigner. C'est lui qui a relayé l'appel en détresse des passagers ce soir-là. Compte rendu, Amélie Beaucourt.
Cette nuit du 24 novembre 2021, c'est Neil Gibson qui est de service à l'unité des gardes-côtes britanniques en sous-effectif ce soir-là. C'est lui qui décroche lorsque Moubin, 16 ans, appelle pour signaler que son embarcation prend l'eau. Un appel de 20 minutes qui se répétera plusieurs fois. L'avocate de la commission le questionne.
Is that an instruction from you? Avez-vous demandé à Moubin d'arrêter d'appeler les gardes-côtes?
Ce que je voulais lui faire comprendre, c'est que les secours étaient en route et qu'on recevait beaucoup d'appels avec des informations différentes. Je lui disais d'être patient, on avait des appels toutes les 10 minutes et ça nous empêchait de nous concentrer sur la situation en mer.
Mais est-ce que ça fait partie de la procédure de dire n'appelez pas les gardes-côtes?
Non, ce n'est pas la procédure, mais c'est une façon de gérer les incidents. Ils répétaient « on va tous mourir, on va tous mourir ». J'ai pensé qu'ils exagéraient parce que le bateau n'arrivait pas assez vite et... Il y a d'un côté ce que l'on dit au téléphone et de l'autre on est démuni. On sait où ils se trouvent, on veut leur envoyer un bateau, mais on n'y arrive pas.
Le garde-côte éclate en sanglots. Dans le flou de la soirée, les secours ne parviendront pas à localiser l'embarcation. Moubin fait partie des 33 personnes qui finiront noyées.
Amélie Beaucourt sur RFI. Un petit mot de la Ligue des Champions pour terminer. Braquage à l'anglaise hier au Parc des Princes. Harvey Elliott qui a crucifié le PSG à la 87e minute. Victoire 1-0 de Liverpool en 8e de finale aller. Le gardien Alisson Becker a sorti pas moins de 10 arrêts dans la cage des Reds. Et puis joli coup aussi pour le Barça grâce à Rafinha à Benfica. 1-0 là aussi. Enfin l'Inter et le Bayern ont déjà un pied en quart. Les Nerazzurri qui s'imposent 2-0 à Rotterdam. 3-0 pour les Bavarois face au Bayern Leverkusen. On retrouve un grand fan de foot, Juan Gomez. Pour rappel sur l'actualité.
Vous êtes bien informé, mon cher Martin Guez. Bonne journée, merci d'être avec nous. Vous écoutez RFI. 9h10 à Paris, 8h10 en temps universel. Et restez avec nous. Dans 30 secondes, vous aurez la parole.